La trumpisation des États-Unis, la radicalisation de la Russie poutinienne, l'isolement diplomatique de la France en Afrique, la progression de la Chine, tout ça, ce sont des éléments qui considèrent que ce danger djihadiste n'est plus déterminant. Pourquoi ? Parce que, et c'en est une nouvelle preuve parmi tant d'autres, nos princes restent obsédés par le logiciel géopolitique. Ce qui compte, ce ne sont pas les sociétés, ni même les sociétés souffrantes, ce sont les États qui vous feraient de l'ombre dans votre précarité.
La guerre mondiale contre le terrorisme, décrétée par George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, est-elle finie? Ou du moins, n'est-elle plus la priorité des États-Unis, de l'Europe et de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, après les fiascos afghans et irakiens? L'avant-dernier week-end de ce mois d'avril 2026, le Mali, ancienne colonie française, a été l'objet d'une attaque terroriste massive et coordonnée dans plusieurs villes du pays. À la manœuvre, le Front de libération de l'Azawad, un mouvement séparatiste touareg, mais aussi et surtout le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'obédience incontestablement djihadiste. Un mouvement armé plus connu sous l'appellation JNIM.
D'un côté, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, plus connu sous le nom de JNIM. Formé en 2017, il est porté par Iyad Agrali, qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, il souhaite imposer la charia au Mali, mais aussi dans d'autres pays de la région, comme le Niger et le Burkina Faso.
Ce type de menace qui avait en 2012 poussé la France, sous François Hollande, à mettre en place les opérations Serval, puis Barkhane. On disait alors qu'il était impérieux, qu'il relevait même de l'intérêt national français d'empêcher que Bamako tombe entre les mains de l'international djihadiste. François Hollande se montrait grandiloquent.
Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme.
Ces propos ont mal vieilli. Après avoir été invité ou après s'être invité indirectement au Mali pour aider les autorités nationales à éradiquer le terrorisme, la France a été contrainte à plier bagage. Plus globalement, à quitter un Sahel qui lui a préféré la Russie. Alors, quand le Mali est attaqué et que le ministre de la Défense du gouvernement militaire est tué dans un attentat suicide, à Paris, on se contente du service minimum. Paris exprime sa préoccupation, condamne les violences commises à l'encontre des civils, pense à ses ressortissants, mais ne cite absolument pas un pouvoir kaki qu'elle semble mettre sur le même pied d'égalité que les djihadistes. On se souvient du précédent syrien, où Israël, les États-Unis et l'Europe n'ont eu rien à redire à la prise du pouvoir de Ahmed al-Sharaa, un ancien d'Al-Qaïda. Reçu à la Maison-Blanche, adoubé par les diplomaties européennes, il a même vu les sanctions onusiennes contre son mouvement HTS levées grâce à l'activisme de Donald Trump. On est en droit de se poser quelques questions. Alors qu'Israël est engagé dans une guerre qui ressemble à une fuite en avant et à un désir de conquête de nouveaux territoires arabes, alors que l'Europe fait face à Vladimir Poutine en Ukraine, alors que les États-Unis ont abandonné l'Afghanistan aux talibans, cible l'Iran et peut-être demain la Chine, alors que l'Occident, s'il existe, lutte contre son propre déclassement, est-ce que l'islamisme armé est encore l'ennemi juré ? Pouvons-nous imaginer un concert des nations où les amis d'hier de Ben Laden seront normalisés? Si oui, selon quelle logique? Ce sont les problématiques que je m'en vais aborder avec Bertrand Badji, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont « L'art de la paix » paru chez Flammarion et « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale » paru chez Odile Jacob. Vous regardez « Mondialité » sur Off Investigation. Bonjour Bertrand.
Bonjour Théophile.
Alors le dernier coup de ces monstres des djihadistes au Mali est assez impressionnant, tout comme est assez impressionnante la discrétion de la France, ancienne puissance coloniale. À ce sujet, Paris a communiqué tardivement et sans prononcer le mot terrorisme ni le mot djihadisme. De l'eau a coulé sous les ponts entre 2012 par exemple et aujourd'hui en 2026.
Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Concernant la France en particulier, je crois qu'il n'y a plus de politique africaine. Et donc, ce que l'on voit se banaliser, c'est une sorte de silence gêné parce que l'on ne sait plus quel langage utiliser dès qu'il s'agit de l'Afrique et plus particulièrement du Sahel. Je pense qu'on n'a pas encore fait l'inventaire des dégâts que les maladresses de la France-Afrique a pu créer dans le Sahel, dans l'ensemble, finalement, des pays francophones du continent africain et peut-être même au-delà. Ce qui est terrifiant, c'est de constater qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas de proposition pour faire redémarrer les relations entre la France et l'Afrique. Mais ça, c'est autre chose. Alors, à part cette particularité française, qui mériterait d'ailleurs d'être développée, il faut s'arrêter sur le mot terrorisme. Le mot terrorisme a été injecté dans le vocabulaire des relations internationales pour désigner en vrac, et j'insiste sur en vrac, toute forme d'action conflictuelle qui ne soit pas menée par des États. Autrement dit, à partir du moment où un acteur non étatique produisait de la violence sur la scène internationale, ou même une violence sur la scène nationale avec des répercussions internationales, on l'étiquetait comme djihadiste, ce qui signifiait d'abord que le droit international ne s'appliquait plus et que donc on pouvait réagir de toutes les façons possibles et imaginables, ce qui impliquait aussi que le conflit devenait presque automatiquement ingérable par le multilatéralisme, étant donné que les acteurs non étatiques n'ont pas voix à ce chapitre, et surtout ce qui dispensait de toute analyse sur ce que cette violence non étatique pouvait exprimer. Et c'est là peut-être ce qu'il y a de plus révoltant, c'est-à-dire en utilisant cette étiquette, en considérant que par définition elle recouvrait une réalité insupportable, on ne s'interrogeait pas sur les mécanismes générateurs de cette violence. Donc, on ne traitait pas les causes, donc on laissait échapper un phénomène. Il échappait à l'analyse, il échappait également à la régulation. Que, effectivement, la contestation d'un régime autoritaire et plus qu'autoritaire, dictatorial, comme celui de la famille Assad, releva du terrorisme, cela rendait les mouvements qui s'y apparentaient comme étant insupportables et inacceptables, et puis un beau jour, on s'est aperçu que dans le fond, ils étaient bien commodes pour pouvoir se débarrasser d'une dynastie que le système international, surtout après la chute de l'URSS et les hésitations poutiniennes, rendait absolument inutile pour l'ordre international. Alors, on frise l'absurde. On est exactement dans la situation d'un médecin qui, à partir du moment où il détecterait une maladie, refuserait d'en étudier les causes et ainsi se priverait de la possibilité de le soigner.
Et refuserait de soigner les autres maladies du même corps.
Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Et je pense que c'est peut-être ça l'élément le plus intéressant. C'est que dans ce fourre-tout de terrorisme, on a placé toutes les formes de contestation qui s'adressaient à une décolonisation qui avait échoué. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui relevait d'une pathologie postcoloniale, pour employer des termes qui peut-être me conduiront directement en garde à vue, ça va. Toutes les pathologies post-coloniales étaient considérées comme insupportable, inadmissible, illégal, et on pourrait multiplier les adjectifs, donc on ne les prenait pas en compte. Et en faisant ça, non seulement on a banalisé ces régimes souvent dysfonctionnels qui s'étaient mis en place à la faveur de la décolonisation, mais on ne s'attaquait pas au mal. Et derrière ce qui se passe au Sahel, puisque tu faisais référence à ce qui intéresse l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui se passe en Mali, au Mali, eh bien, on voit que toutes les pathologies sociales dont souffre le Sahel, en matière climatique, en matière alimentaire, en matière sanitaire, en matière éducative, en matière, je dirais, de lien social, de socialité, sociabilité, tout ça a été enfoui et tout ce qui était ainsi non traité venait faire l'aubaine pour ce que j'appellerais les entrepreneurs de violence, c'est-à-dire ceux qui pouvaient construire une autorité sur l'exploitation de ces pathologies qui allaient grossissant. Donc finalement, on a rendu service à ce qui devenait un cercle vicieux, ce terrorisme que d'une part on exécrait et que l'on stigmatisait, eh bien était entretenu par ce laisser-faire que, auquel on se condamnait pour refuser de voir ce qu'il y avait derrière les manifestations.
Bah, aujourd'hui, ce terrorisme, on ne le condamne plus, on le met quasiment sur le même pied d'égalité que le pouvoir, en tout cas au Mali, concernant ce week-end de feu et de sang. Est-ce que ça signifie que la France et l'Occident en général ont révisé leur position, ou alors ça signifie juste que, bon, voilà, on a été chassés, on se dit, bah, débrouillez-vous, et on regarde ça avec une joie mauvaise, en attendant que les choses se gâtent un peu trop et en espérant qu'on nous rappelle. Comment analyser, ben justement, la prise de distance et la crise du langage ?
Non, justement, c'est plus compliqué. Qu'il y ait ce dépit qui suit le temps d'échec et ce que le président de la République française a appelé le temps de l'ingratitude, c'est absolument évident. Mais c'est qu'une toute petite partie de la réalité. En fait, il y a trois facteurs qui jouent et qui rendent le jeu parfaitement irrationnel ou inintelligible. Premier facteur, c'est la mise en place de régimes politiques qui se sont construits non seulement à partir d'un rejet violent de la France, hein, je pense au régime malien, au régime burkinabé, au régime nigérien, très explicitement anti-français, anti-colonial ou post-colonial, mais je dirais un peu anti tout le monde. Ce sont des États qui ont quitté la CDAO, ce sont des États qui ont essayé de constituer leur propre groupe, l'entente des États du Sahel, dont on ne voit pas très bien quel va être son positionnement dans le jeu régional et dans le jeu international. Ce sont des États qui se sont mis plus ou moins en situation de tension avec le multilatéralisme onusien, qui a réclamé le départ des missions onusiennes comme la MINUSMA, par exemple. On n'a pas tellement envie de se précipiter à leur secours, et on se dit même peut-être secrètement que si, suite à ces assauts, ces régimes venaient à s'effondrer, ben, ce serait pas plus mal que ça. Deuxième élément, ces régimes, il faut pas l'oublier, dans le contexte de l'échec français notamment, mais pas seulement, se sont alliés à la Russie. Alors ça a été l'épisode bien connu de Wagner, et maintenant de l'Afrika Korps, qui d'un certain point de vue est plus important encore que Wagner, parce que l'Afrika Korps est soudé au régime russe, à l'armée russe, et donc on n'est pas mécontent de voir...
Vu de Paris.
Oui, vu de Paris, vu d'un peu partout, vu d'Europe en général, et même d'un certain point de vue, vu de Washington, et peut-être même vu d'un certain nombre de financiers du monde arabe ou de la péninsule arabique, on n'est pas plus mécontent que cela de voir cet Afrika Korps et donc cette diplomatie russe mise à mal par ces processus. Et troisièmement, là, c'est peut-être une faute d'analyse, mais qui est intéressante à suivre parce que très révélatrice de ce que sont les relations internationales. Finalement, on se dit que ces groupes djihadistes ne font le jeu d'aucune grande puissance. C'est-à-dire, il n'y a derrière, et jusqu'à preuve du contraire, ni la Chine, ni les États-Unis, ni la Russie. Il n'y a évidemment aucun pays européen. Alors, est-ce qu'il y a des pays du Golfe ? Ça serait à vérifier. Mais comme on a toujours tendance à analyser les situations régionales à l'aune d'un narratif mondial, à l'aune du danger russe, à l'aune du danger chinois, notamment très couru dans le cas africain, on se dit bah ces mouvements-là, finalement, ne vont permettre à aucune puissance rivale de marquer des points. Donc, pourquoi pas ? Tout ça, c'est extraordinairement faible comme analyse.
Justement, Bertrand, ce pourquoi pas, ça signifie que d'une certaine manière, la peur d'avoir à quelques milliers de kilomètres de Paris une sorte de cancer djihadiste, de cancer de production de terrorisme, ne structure plus les projections diplomatiques françaises en 2026.
Oui, ça, c'était le discours, rappelle-toi, de janvier 2013. Mmh. C'était le discours de François Hollande, la justification de l'opération Serval, puis ensuite de l'opération Barkhane. C'était le véritable danger qui menace notre sécurité nationale autant que la sécurité internationale, c'est la progression du djihadisme. La trumpisation des États-Unis, la radicalisation de la Russie poutinienne, l'isolement diplomatique de la France en Afrique, la progression de la Chine, tout ça, ce sont des éléments qui considèrent que ce danger djihadiste n'est plus déterminant. Pourquoi ? Parce que, et c'en est une nouvelle preuve parmi tant d'autres, nos princes restent obsédés par le logiciel géopolitique, par la grammaire géopolitique, par l'idée que ce qui est important en Afrique, c'est pas tant les Africains et surtout les crises sociales africaines, qui sont les véritables sources de danger dans mon esprit. Ça, c'est considéré comme peu important. Ce qui est important, c'est que on voit arriver les Chinois, qu'on voit arriver les Russes, qu'on voit arriver même les Turcs, peut-être les Indiens. Cette manière de considérer que dans le jeu international, ce qui compte, ce ne sont pas les sociétés, ni même les sociétés souffrantes, ce sont les États qui vous feraient de l'ombre dans votre précaré. Alors d'abord, il n'y a plus de précaré. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, le vrai danger, c'est tout simplement une Afrique sinisée ou une Afrique russifiée.
En gros, les djihadistes, quelque part, entre guillemets, ils vengent notre honneur en humiliant nos ennemis russes. Donc, ils ne sont pas si problématiques que cela pour l'instant. Vu de Paris, ce n'est pas nous qui parlons.
Oui, oui, non, ça, j'ai bien compris. Je pense que vu de Paris, c'est peut-être pas formulé de cette façon, parce qu'il reste quand même un ADN fortement islamophobe, ou sinon islamophobe, du moins très préoccupé de tout ce qui relève d'une radicalisation de l'islam.
En France.
Mais oui, en France et aussi un petit peu ailleurs, hein, ça reste quand même un paramètre, mais ce paramètre, il est maintenant masqué par ce retour naïf, bébête, faut employer le terme, de la géopolitique. Moi, je me rappelle cette formule d'Emmanuel Macron, c'était prononcé à Djibouti il y a quelques années, je ne me rappelle plus la date exacte, où il disait « mais la France restera en Afrique pour éviter que la Chine n'y soit ». Bon, tant qu'on raisonne comme ça, tant qu'on considère que on est dans la grande stratégie, mais que finalement, les problèmes sociaux, au sens large du terme social, des Africains ne sont pas au centre du dispositif analytique, eh bien, on va évidemment dans le mur. D'autant qu'il ne faut pas oublier que, pardon de cette formule qui va peut-être un peu choquer, mais là, je la crois vraie, les grands bénéficiaires des pathologies sociales africaines, ce sont les djihadistes. parce que ce sont les seuls qui savent utiliser le langage qui touche ceux qui sont dans des situations de souffrance sociale. Et qui par ailleurs bénéficient de ce désordre économique et social qui tient à l'incapacité des États en place, souvent des États factices ou des États corrompus, de gérer ces questions sociales. Donc c'est ces cercles vicieux qu'il faut casser, sinon effectivement on va directement vers une situation qui n'est plus du tout contrôlable. Je crois d'ailleurs qu'on a commencé.
Mais justement, un des États justement qui s'est construit et qui s'est légitimé, même quand les urnes disent autre chose sur la guerre contre le djihadisme, sur la guerre contre l'islamisme, c'est l'Algérie. L'Algérie qui ne peut pas avoir ne pas avoir vu ce qui se préparait et ce qui s'est passé dans le voisin malien, chez le voisin malien. Et qui a qui, comme réfugié politique l'imam Diko, qui peut être une sorte de jonction entre djihadistes et musulmans pas djihadistes, et donc une solution politique. Alors, si l'Algérie, en cas de chute du pouvoir malien, tire les marrons du feu, on va encore une fois être face à l'ambiguïté, non seulement du discours algérien, sur le terrorisme et le djihadisme, parce que, mine de rien, ce ne sont pas les Touaregs, amis d'Alger, qui permettront de gagner, mais bel et bien les djihadistes qui sont les restes de ceux qui ont combattu l'État algérien. Et puis, le double langage franco-algérien, puisque on sait très bien que les deux pays peuvent se parler justement sur des situations comme la situation malienne.
Oui, alors ça tient aux échecs répétés de l'Algérie pour établir des relations diplomatiques fortes avec les autres États de l'Union africaine. Il était un temps où l'Afrique était un des leaders de l'Union africaine.
L'Algérie et l'Afrique du Sud étaient les rois de l'Union africaine.
Voilà, absolument. Effectivement, depuis déjà maintenant un certain temps, on a vu la situation complètement se retourner. Et se retourner souvent au profit du Maroc. Le Maroc qui a réussi à pénétrer l'ensemble de l'espace africain, jouer un rôle presque de tutelle.
Je te coupe un peu pour dire que quelques semaines avant ce qui s'est passé au Mali, le Mali a reconnu la marocanité du Sahara occidental, ce qui est une révision totale de la diplomatie malienne, et ce qui peut-être même ferait retourner Modibo Keïta, un des pères de l'indépendance africaine, dans sa tombe, parce que voilà, c'est pas du tout l'axe de la diplomatie malienne.
Et dans ce sillage, l'Algérie a établi des relations privilégiées avec le Tchad comme pour contrer le Mali dans la bande sahélienne. C'est dire que effectivement, on a affaire à une diplomatie de rivalité, bien sûr entre le Maroc et l'Algérie, et en tous les cas, de volonté presque désespérée de la part d'Algérie de reconquête de son influence en Afrique. Et dans le temps présent, le pouvoir algérien pressent, comprend que des accords avec les États, bon, il y a cette exception que constitue l'accord passé récemment avec le Tchad, c'est davantage en s'appuyant sur des mouvements intra-étatiques que sur des gouvernements d'État. À part le cas du Tchad, est-ce qu'on voit dans l'Afrique telle qu'elle est actuellement des gouvernements africains, des États africains susceptibles de passer des alliances privilégiées avec l'Algérie? On n'en est pas du tout à cette formule. Donc effectivement, on semble assister, mais j'en dirai pas plus parce que les choses sont mouvantes, à un rapprochement entre l'Algérie et ses mouvements djihadistes, et on voit très bien ce que l'une et l'autre des parties peuvent en tirer bénéfice pour leur propre stratégie.
Et risque aussi, puisque les islamistes armés n'ont pas renoncé à l'Algérie.
Oui, alors, dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que le phénomène soit tellement sensible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de tout cela. Les conséquences de tout cela, c'est quand même de plus en plus une distance prise à l'égard des sociétés africaines. C'est-à-dire, j'aimerais bien que près de deux tiers de siècle, exactement deux tiers de siècle après les grandes indépendances africaine, on commence à s'interroger sur les sociétés africaines. On s'est précipité sur les États. On s'est précipité sur les États pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pensait qu'atténuer la douleur, entre guillemets, de la décolonisation, c'était clientéliser les États. Donc on s'est précipité sur les États pour s'assurer que les nouveaux présidents seraient les vassaux de l'ancienne puissance coloniale ou de quelques puissances régionales de la région. On s'est précipité sur les États de manière peut-être moins cynique, simplement à partir du concept très dommageable de développement politique, c'est-à-dire on a été tout à la fin du XXe siècle, au début de celui-ci, obsédé par l'idée que c'était en développant les États que l'on résoudrait les problèmes de société, alors que justement ces mouvements de contestation violente qui se développent un peu partout en Afrique démontrent que la racine du développement, elle est dans la profondeur de la société et non dans la nature fictive d'États inefficaces et impuissants. Donc ça a été la grande erreur de la pensée développementaliste, n'est-ce pas ? Et puis enfin, on s'est précipité sur les États en espérant ainsi tenir au maximum ceci à l'écart des influences des puissances concurrentes. Donc tout ça, c'est le modèle qui a tué l'Afrique,
oui, mais,
qui a tué son développement social.
Bertrand, il y a aujourd'hui des puissances moyennes qui considèrent que les États africains sont des fictions et qui mènent des stratégies prédatrices en Afrique,
oui,
en tournant le dos aux États. On pense notamment à la Libye, qui était divisée en au moins deux bouts, et on voit des puissances comme la Turquie et les Émirats arabes unis, la Russie aussi en Libye. On voit l'activisme des Émirats arabes unis au Soudan, on voit la consécration du Somaliland par Israël. On voit finalement, on arrive à une nouvelle étape de l'histoire.
Non, attention, c'est plus compliqué que ça. D'abord, effectivement, ce que tu décris, et là je te rejoins totalement, ce sont les symptômes de l'écroulement des illusions du développement politique. Est illusion d'autant plus forte que ce qu'on appelle le développement politique, c'est pas le développement du politique en Afrique, c'est le développement du modèle occidental de politique qu'on impose à l'Afrique. Donc ça ne marche pas, là, tout à fait raison. Deuxième élément, et là je commencerai un peu à diverger, c'est que les exemples que tu donnes sont des exemples d'effondrement d'État liés justement à cette irrationalité des modèles de développement politique, ou liés tout simplement à la bêtise et à le manque de discernement des diplomaties occidentales. L'exemple libyen est là pour crever les yeux. Hein. Bon, et troisièmement, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on a affaire à ce phénomène qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui prend aujourd'hui une ampleur sans précédent, qui est le phénomène de l'État failli, il faut de temps en temps s'arrêter sur cet État failli. L'État failli, ça peut être l'État qui n'existe pas. Alors, on prend l'exemple de la Libye et je pense de plus en plus du Soudan. Bon, ça, c'est une affaire, enfin, on peut y revenir, mais c'est une affaire assez claire. Et puis, vous avez tous les exemples intermédiaires d'États faillis qu'on pourrait appeler États partiellement faillis. Je pense par exemple au Congo, je pense au Tchad, je pense peut-être ce qui va être un coup de tonnerre énorme, mais c'est en gestation depuis bien longtemps, au Nigeria. C'est-à-dire ces États qui finalement n'ont pas la capacité de contrôler l'ensemble de leur territoire. Et là, le jeu qui se joue dans ces États est un jeu, je dirais, à double ligne. Et c'est ça qui le rend compliqué. C'est-à-dire que d'une part, Il favorise les logiques de prédation, on va aller se servir au Congo, on va aller se servir au Nigeria et dans bien des États de même nature, mais en même temps, on va continuer à s'appuyer sur ces États, sur ces chefs d'État affaiblis, mais on continuera à courtiser Tshisekedi au Congo, on continuera à courtiser l'administration d'Abuja au Nigeria, etc. Ce qui montre bien à quel point on n'a pas compris le film. On n'a pas compris que la véritable urgence, en fait, elle est double pour l'Afrique. Elle est d'une part, et je l'ai dit plusieurs fois, de réengager le social. Et c'est ce que Kofi Annan a. En bon Africain qu'il était, avait parfaitement compris. C'était le sens même des obligations du millénaire pour le développement, des OMD, de ce multilatéralisme social dont il considérait que c'était la seule façon d'éviter la guerre. Et d'autre part, de créer les conditions d'une réinvention du politique. Et ça, personne n'en veut, en fait. Et c'est ça la tragédie. Pourquoi personne n'en veut ? Parce que la réinvention du politique en Afrique, ça impliquerait une dissociation définitive entre le modèle colonial ou postcolonial et les sociétés en question. Ce divorce est jugé coûteux, inacceptable
oui, mais justement, par les puissances coloniales. Pour, entre guillemets, réenchanter le social, remettre du contenu dans le social dans ce genre de circonstances, on aurait tendance à s'appuyer sur des ONG, sur des organisations spécialisées des Nations Unies, mais cela est aussi regardé en Afrique comme une perte de souveraineté, des pertes de souveraineté et surtout aussi des promesses d'inefficacité, comme on l'a vu avec la MONUSCO, par exemple, au Congo. Mais on s'éloigne peut-être de notre sujet, c'est une petite parenthèse.
Oui, enfin, ça mériterait discussion, parce que ça dépend qui sont ces ONG. Si c'est des ONG africaines, et elles sont quand même de plus en plus influentes, si ce sont des ONG qui travaillent par le bas, c'est-à-dire à partir d'une reconstitution du lien social, ce qui est le propre de pas mal d'ONG transnationales qui ont compris cet enjeu, moi je pense que le risque, il est inverse. Le risque, il est beaucoup plus pour les anciennes puissances coloniales que pour la souveraineté des États africains.
Alors revenons à la question, est-ce que la guerre contre le terrorisme est finie ou du moins est-ce que ce n'est plus la priorité des pays occidentaux? On voit ce qui s'est passé devant nos yeux au Mali et la réaction en France. On voit aussi ce qui s'est passé en Syrie avec l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara sous les vivas des Occidentaux, avec aussi le lâchage de la Russie, qui a lâché Bachar al-Assad. Alors tout cela mis bout à bout, est-ce que cela ne relève quand même pas du hasard?
Ça relève d'une logique évidente, c'est-à-dire l'illusion ne pouvait pas durer indéfiniment. On ne pouvait pas continuer à fonctionner sur une grammaire dualiste, c'est-à-dire il y a les États qui sont légitimes et légaux à tous les coups, et puis il y a les autres qui sont illégitimes et légaux à tous les coups.
Et la guerre du bien contre le mal aussi, voilà. Parallèlement,
George W. Bush. D'un point de vue éthique, c'était de plus en plus discutable, parce que l'actualité nous a fourni davantage d'exemples de la nature intrinsèquement violente d'États despotiques, voire d'États qui se disent démocratiques et qui se comportent indépendamment ou même en contradiction avec les règles essentielles du droit international, qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse des États-Unis. Tout ceci montre que cette dualité, comme tu dis, du bien et du mal, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Analytiquement, mais aussi dans la pratique diplomatique, elle s'effrite. Elle s'effrite parce qu'on a été content de trouver Achara, le terroriste, pour nous débarrasser de Bachar el-Assad, l'homme d'État membre officiel de la communauté internationale, parce qu'on s'est aperçu que derrière les États belligérants au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, on ne trouve pas non plus forcément des États de droit, que des États qui se disent de droit sont des États de l'antidroit comme Israël. Donc tout ceci fait que on ne peut plus sérieusement jouer de cette carte. Mais elle est résistante, elle continue à fonctionner. Il n'y a qu'à voir en France ce débat absolument incroyable sur la notion d'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que c'est l'apologie du terrorisme et jusqu'à l'incitation indirecte.
Alors oui, on parle des accusations un peu absurdes contre la députée européenne Rima Hassan. On peut se dire que finalement, mettre au pouvoir des personnes qui ont le bonnet d'âne ou le signe de la bête sur leur front, comme ce qui s'est passé en Syrie avec Ahmed al-Sharaa, peut permettre à un voisin comme Israël, à la communauté internationale en général, d'intervenir quand elle veut sans forcément susciter beaucoup de protestation. On peut imaginer que si ça se passe mal, on va lui rappeler d'où il vient et son illégitimité structurelle, on va dire le fait qu'il soit dans le fond un terroriste. Pour parler du Mali, on peut aussi imaginer que la présence de groupes armés non étatiques, de forces non étatiques, dont fort peu légitimes, peut permettre à des puissances régionales ou internationales, des grandes puissances ou des puissances moyennes, de faire avancer leur agenda, de faire signer des accords inégaux ou alors à un moment donné de dire ben, stop, vous finalement vous n'êtes pas assez légitime. Bref, d'exercer des pressions sur les pouvoirs qui se seront ainsi constitués, ainsi mal constitués. On peut penser ça.
Oui, avec un paramètre supplémentaire qui est très inquiétant, qui est qu'à mesure que s'opère la conversion du mal vers le bien, du terroriste vers l'État, l'acteur ainsi en mutation perd une grande partie de son efficacité. C'est-à-dire, Hachala a mis très peu de temps pour arriver à Damas et prendre le pouvoir à Damas, mais depuis qu'il a pris le pouvoir à Damas, on voit le temps et les difficultés de mettre en place un État qui puisse fonctionner. C'est-à-dire, on a même le sentiment qu'à mesure qu'il s'étatise, Hachala se trouve contaminé, prisonnier, de tous les maux qui sont liés à la construction ancienne de l'État dans les sociétés extra-occidentales. C'est-à-dire que faire des minorités kurdes, que faire des armées plus ou moins liées ou affidées à des pays voisins et notamment à la Turquie, comment se définir par rapport aux grands enjeux régionaux. Et on voit à ce moment-là, à mesure qu'il devient chef d'État, Hachala perdre les leviers dont il disposait auparavant.
Et ça arrange la Turquie, ça arrange Israël, finalement ça arrange des États un peu plus forts d'avoir de tels dirigeants, et ça peut, à un moment donné, susciter la nostalgie de leaders, entre guillemets, forts comme Bachar al-Assad ou Saddam Hussein en Irak.
Oui, alors, c'est vrai que les pays qui ont vocation ou qui veulent se donner la vocation d'être les nouvelles puissances régionales. Pour le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Turquie et c'est l'Iran. Enfin, l'Iran, en ce moment, qui est dans un tunnel, mais c'était en tous les cas un élément structurant de sa politique depuis déjà plusieurs décennies. Pour cela, effectivement, ce type de leader est idéal, parce qu'ils peuvent au moins espérer le contrôler et le vassaliser, c'est-à-dire qu'on reprend exactement le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure, en le vassalisant, l'affaiblir, en l'affaiblissant, le rendre de plus en plus autoritaire, et on retrouve le mécanisme infernal de tout à l'heure. Pour Israël, c'est différent, parce qu'Israël fait un pari qui est extrêmement dangereux, qui est que ce n'est que dans la destruction de l'adversaire qu'il pourra construire sa sécurité. Ça, c'est le théorème de Netanyahou. Or, effectivement, un pouvoir faible en Syrie, dans l'immédiat, fait son affaire, tu as tout à fait raison, parce que ça lui permet de grignoter un peu de territoire, d'affaiblir un peu plus un régime voisin. Mais moi, je continue à me poser la question, à moyen et long terme, est-ce que les stratégies de chaotisation sont bénéficiaires pour quelque forme de sécurité nationale que ce soit ?
Moi, en tout cas, le chaos légitime la force, et la force va toujours à celui qui est le plus fort.
Oui, mais comme la force ne marche plus, C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire la force crée au contraire de la violence en face, et cette violence en face vient gripper cette belle mécanique. Ça, on l'a appris depuis au moins l'échec des accords d'Oslo.
Je parle également du Mali. Certains analystes disent qu'en France, on attend que la situation se détériore encore plus pour que le pouvoir change de camp et qu'à ce moment-là, on pourra revenir et s'appuie notamment sur des propos tenus il y a plus de 2 ans par le général François Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées.
Je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans, la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées.
Alors Lecointre disait, à un moment donné, on sera obligé d'y retourner parce que ce sera trop le chaos. Et ça peut être aussi une logique, c'est-à-dire le pourrissement nous sert parce que à un moment donné, on nous appellera parce que finalement, nous sommes les seuls à pouvoir mettre l'ordre là où il y a le chaos.
C'est vraiment... Enfin, si cette vision est sincère, je n'en suis pas sûr, elle est d'une naïveté... qui mériterait de fabriquer un nouvel album de Tintin. Voilà, je veux dire, l'échec de la France en Afrique, elle relève bel et bien d'un échec structurel. Et penser qu'à partir d'un logiciel qui n'a cessé d'échouer depuis les années 60, quand l'armée française est intervenue pour protéger les Omba au Gabon, penser que cette logique puisse être recyclée pour aboutir à des résultats contraires à toutes celles qui ont précédé, c'est absurde.
Mais on peut imaginer que ce soit le logiciel militaire, c'est-à-dire le logiciel du pourrissement qui justifie le retour en force. On sait que même en Algérie, pendant longtemps, certains nostalgiques...
C'est le refrain de nos échanges depuis toujours. La force, ça ne marche plus depuis 1945. La ressource militaire comme mode de régulation des relations internationales, pour mille raisons, ça ne fonctionne plus depuis 1945. Tu ne peux pas me trouver un endroit même où ça ait fonctionné. Avant 1945, oui, ça fonctionnait. Clausewitz avait tout à fait raison. Le monde était un monde de rapports de force. Le plus fort et le plus rusé gagnaient. Aujourd'hui, le plus fort y perd. Et il perd pourquoi ? Parce que la ressource militaire n'est plus la ressource régulatrice du jeu international d'un certain point de vue. Au contraire, c'est une aubaine offerte à ce que, dans mon dernier livre, j'ai appelé l'énergie sociale.
Merci Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont le fameux « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale ». Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.